plus le Comteron. Triade, la mafia chinoise à la conquête du monde. Donc disponible en replay sur Arte, le site d'Arte ou encore sur YouTube. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci à toute l'équipe de Jour J. Céline Bonnet, Quentin Azoula, Bastien Robin et Jonathan Griveau à la réalisation de cette émission. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.
RTL, il est 2h. 24 heures d'info, Charles Ducrot.
Sciences Po Paris et plusieurs campus toujours bloqués et occupés par le comité Palestine en soutien aux populations de la bande de Gaza. Plusieurs locaux seront à nouveau fermés demain, annonce l'école. Plus tôt dans la journée d'hier, les étudiants ont pu débattre avec l'administration. La position adoptée par la direction reste décevante, jugent les étudiants. 6 d'entre eux ont entamé une grève de la faim. Les agriculteurs vont devoir attendre. Les syndicats reçus ce jeudi matin à l'Élysée actent un rendez-vous manqué. Emmanuel Macron leur a expliqué qu'il ne croyait pas à la fin de la colère du jour au lendemain, tant les causes sont multiples et parfois longues à traiter, estime le chef de l'État. Il ne livrera sa vision pour l'agriculture que dans plusieurs mois. L'actualité, c'est aussi la campagne des européennes et le temps de parole d'Emmanuel Macron pour son discours de la Sorbonne, décompté dans son intégralité du temps imparti à la liste de la majorité. La décision a été rendue par l'ARCOM. L'autorité de l'audiovisuel estime que le discours était en lien direct avec les élections. Carla Bruni-Sarkozy, entendue pendant près de 3 heures ce jeudi par les enquêteurs, suspectée d'avoir joué un rôle pour protéger son époux Nicolas Sarkozy autour de la rétractation en 2020 de Ziad Takieddine, qui accusait l'ancien président d'avoir financé sa campagne présidentielle de 2007 avec des fonds libyens. Concernant d'éventuelles poursuites, aucune décision immédiate n'a été prise par les magistrats instructeurs, selon une source judiciaire. Le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU demande le retrait du projet de loi sur l'influence étrangère examiné en ce moment au Parlement de Géorgie. Depuis plusieurs jours, d'importantes manifestations secouent le pays. Le représentant de l'ONU dit aussi son inquiétude de l'usage disproportionné de la force contre ceux qui s'y opposent. Deux conducteurs de convois humanitaires de la Croix-Rouge internationale ont été tués au Soudan, annonce l'ONG. 3 employés ont également été blessés. Des hommes armés ont fait irruption sur leur parcours. Les circonstances restent à éclaircir. La région du Darfour est en proie à une escalade de la violence entre armées régulières et groupes paramilitaires contre le régime. Le sport en football, l'OM s'en sort face à l'Atalanta Bergame. Match aller de la demi-finale de la Ligue Europa, 1-1. De son côté, le Bayer Leverkusen a battu l'AS Roma 2-0. Les matchs retour sont jeudi prochain. Enfin, c'est un coup dur pour Lucas Hernandez, le footballeur du Paris Saint-Germain, sorti sur blessure ce mercredi lors de la demi-finale de la Ligue des Champions face à Dortmund. Touché au ligament croisé du genou gauche, Lucas Hernandez est forfait pour le reste de la saison du PSG et pour l'Euro avec l'équipe de France. La météo, de la grisaille et du vent pour la moitié nord avec des averses le long des frontières du nord le matin. Des averses aussi sur la côte atlantique où quelques orages peuvent encore se développer. Des Pyrénées au sud-est, le soleil s'imposera. Les températures au matin, toujours de la fraîcheur. 1 degré à Toulouse, 4 à Lyon, 8 pour Bordeaux, Nantes et Dijon, 9 à Paris et 12 à Nice. Au meilleur de la journée, vous compterez 13 à 16 degrés pour la moitié nord, 15 à 19 pour la moitié sud. Enfin, les courses ont lieu à Vincennes ce vendredi, départ 20h15. Les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 16, l'As, le 2, le 4, le 7, le 12 et le 14. L'outsider d'RTL, le 4, Ulysse Digeo.
RTL, 24 heures d'info.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
La rediffusion.
20 ans de fausses pistes, d'auditions de suspects par centaines, de tests ADN restés sans résultat. Jusqu'à ce qu'un laboratoire parvienne à mettre un nom sur celui qui a étranglé Saïda et aussi une autre fillette, Sarah, 5 ans plus tôt. Cet homme, c'est Georges Pouille, 41 ans aujourd'hui.
Bonjour, il n'avait que 15 ans quand il a commis son premier meurtre. Il en a fallu 22 pour que la justice rattrape cet homme, le dénommé Georges Pouille. Dans le sillage de ce meurtrier silencieux, on va retrouver les corps de 2 petites filles, Sarah, 6 ans, puis Saïda, 10 ans. Pouille ne leur a laissé aucune chance, puis a fini par les abandonner dans un coin comme on abandonne un objet. Il va falloir beaucoup d'efforts aux gendarmes et aux experts pour identifier cet individu handicapé par une maladie musculaire, totalement totalement inoffensif, d'après ceux qui le connaissent. C'est pourtant un visage bien plus inquiétant que les enquêteurs vont mettre au jour. Les psychiatres diront de cet homme que s'il n'avait pas été arrêté, il aurait sans doute un jour ou l'autre récidivé. Pourquoi tuer ces fillettes qui ont eu pour seul malheur de croiser sa route? Pourquoi un tel silence à la place des explications et des regrets? Question posée aujourd'hui à nos invités.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Georges Pouille, la trajectoire d'un meurtrier d'enfants qui a longtemps réussi à passer entre les mailles du filet judiciaire. Il va falloir des années pour que son visage se dessine derrière les morts inexpliquées de Sarah et de Saïda. Dimanche 24 novembre 1996, il est 20h45, lorsqu'une mère de famille, Akila Berche, se présente à la brigade de gendarmerie de Vorep, une commune de l'Isère, à une demi-heure de Grenoble. Elle vient y signaler la disparition de sa fille, Saïda, 10 ans. Celle-ci a quitté la maison de l'avenue du 11 novembre, autour de 16h30, 17h, pour aller jouer avec des copines au gymnase L'Arcade, à moins de 100 mètres du domicile. C'est un trajet qu'elle connaît bien et qu'elle effectue régulièrement. Elle porte un anorak et un sweat. La maman, une veuve, dit avoir cherché partout sa fille dans un quartier qui aligne les maisons individuelles, un lycée professionnel et des locaux professionnels. Les gendarmes de Vorep, appuyés par leurs collègues de Grenoble, commencent à ratisser les lieux. Ils s'interrogent sur un possible accident. La route devant la maison est très passante, mais aucune trace de Saïda. Mardi 26 novembre, 10h40, moins de 48 heures après la disparition, le corps d'un enfant est signalé par un promeneur. Le corps est à demi immergé dans le canal du Mont-Dragon, chemin du pont Bossu à Vorep, à un peu plus d'un kilomètre de la maison de la famille Berche. Il s'agit bien de Saïda. Elle a le visage cyanosé, l'anorak est baissé au niveau des coudes. Le sweatshirt qu'elle portait a été noué autour de son cou, il a servi à la serrer avec force. Le légiste indique que Saïda a été étouffée. Elle n'a subi aucun viol ni agression sexuelle. Impossible de dire si la victime a été tuée à cet endroit, loin du gymnase où elle se rendait. Le meurtrier de Saïda n'a pas laissé beaucoup d'indices. Aucun ADN étranger n'est alors détecté sur les vêtements et le corps de l'enfant. Au fil des jours, les gendarmes de la brigade de recherche de Grenoble enregistrent néanmoins une série de témoignages intéressants. Trois personnes racontent avoir aperçu une petite fille qui marchait à côté d'un jeune garçon en VTT. Ils allaient en direction de l'endroit où a été découvert le corps. Il était autour de 17h. Un de ces témoins raconte qu'il lui semble avoir à nouveau vu le cycliste un peu plus tard, mais cette fois, il roulait tout seul. Il aurait même baissé la tête en croisant ce passant. Une femme raconte pour sa part avoir entendu ce dimanche à la même heure des pleurs d'enfants dans le coin, plainte qui s'est rapidement interrompue. La piste du VTTiste est prise au sérieux par les gendarmes. Il est décidé d'identifier tous les hommes détenteurs de VTT de la commune. Les vérifications et auditions vont aller bon train. Aucun des jeunes que compte Vorep n'échappe à ce contrôle géant qui se poursuit durant des semaines. Parmi les plus de 630 personnes interrogées figure le dénommé Georges Pouille, 21 ans à l'époque, un habitant de Vorep. Il connaît un peu la famille Berche et il possède un VTT de couleur grise. Il est questionné 15 jours après le crime. Il explique qu'il a passé une bonne partie de l'après-midi avec son frère Cédric. Il est revenu à vélo au centre-ville de Vorep aux alentours de 17h30. Puis il s'est rendu chez sa grand-mère dans le quartier du Bourg Vieux. Il faisait nuit quand il a rejoint son domicile. La maison où il vit avec sa mère, il reconnaît qu'il portait ce jour-là une casquette, comme le jeune homme aperçu ce dimanche en compagnie de la petite Saïda, mais il dément avoir roulé jusqu'au chemin du pont Bossu. Les recherches sont vaines. 28 septembre 1999, 3 ans après la mort de la petite fille, le juge prononce un non-lieu. Et c'est la fin donc de cette enquête, fin provisoire, car on va le voir, les gendarmes vont revenir sur ce Georges Pouille dont le profil, à ce moment-là, il faut bien le dire, ne retient pas l'attention. Il glisse entre les gouttes, Georges Pouille, il va falloir attendre bien des années pour qu'on lui mette la main dessus. On va raconter, dans la suite de l'heure du crime, comment on a pu l'attraper et surtout quel secret il cache, pourquoi il s'en serait pris à des enfants. Bonjour Serge Puyot.
Bonjour Jean-Alphonse.
Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes le correspondant RTL à Grenoble. On connaît bien évidemment bien votre voix sur cette antenne et vous connaissez parfaitement cette affaire que vous avez d'ailleurs largement suivie pour RTL. Donc on est là à l'automne 1996, on est à Voreppe, cette petite ville proche de Grenoble. On a l'impression que dans cette affaire, le ravisseur, puisqu'à l'époque on parle d'un ravisseur criminel, certes, mais d'un ravisseur, il a pris tous les risques parce que l'endroit est très urbanisé.
Oui, oui, il y a beaucoup d'habitations, il y a une cité HLM, la cité de Bourvieux, et donc effectivement c'est un endroit où on peut être repéré, il y a beaucoup de monde qui circule, et on se dit que peut-être que effectivement l'auteur de ces faits habite tout proche, qu'il connaît bien le secteur, à moins effectivement qu'il vienne de la région de Grenoble et qu'il soit de passage, mais c'est vrai qu'on se dit quand même qu'il a pris beaucoup de risques parce qu'il aurait pu être repéré par des habitants dans ce secteur très urbanisé.
Oui, d'ailleurs, Serge, il faut le souligner, il y a des témoignages, évidemment, qui ont vu cette silhouette. On n'arrive pas à l'identifier pour le moment, mais effectivement, il y a ce fameux cycliste avec cette petite fille. Alors, encore une question, Serge Puyot. Cette scène de crime, elle est un peu étrange, quand même, parce qu'on a l'impression que c'est un coup de colère, un coup de folie qui a animé le meurtrier. Et j'ai presque même envie de dire que ça ressemble presque à quelque chose d'intrafamilial, parce que souvent comme ça, une enfant qui est tuée comme ça de manière aussi brutale et qui n'a pas été violée, ça laisse beaucoup de questions en suspens.
Oui, il y a beaucoup de questions. Effectivement, le corps de la petite fille a été retrouvé dans la plaine de Voreppe, hein, dans ce canal, a priori immergé, effectivement, en partie. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'allait faire la petite fille dans cet endroit-là? Elle a dû être emmenée, sans doute, par son agresseur.
Bien sûr.
Et on se dit, pourquoi elle s'est retrouvée là et quel est, effectivement, le mobile de ce crime? Parce qu'il n'y a pas d'agression sexuelle. Donc, il y a beaucoup de questions et les enquêteurs sont très perplexes.
Alors, des enquêteurs perplexes, ce sont les gendarmes qui tiennent évidemment cette affaire. Bonjour, général François Daoust.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'ancien patron de l'IRCGN, c'est l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, et vous avez eu à connaître évidemment cette affaire. Vous la connaissez bien.
Alors, on la connaît par différents aspects. L'aspect criminalistique, pour une partie des scellés qui ont été étudiés, et aussi par le fait que après, dans mes fonctions au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, il y a le service central de renseignement criminel de la gendarmerie qui, justement, travaille sur le recueil de l'ensemble d'éléments qui doivent être croisés pour avancer.
Alors, ensemble d'éléments, il y en a un qui est incontournable, c'est évidemment l'ADN. On va en parler parce qu'il va tenir une place importante, évidemment, dans cette affaire et c'est de plus en plus le cas dans les affaires criminelles. À ce stade, général Daoust, il n'y a pas de trace ADN. Pourquoi c'est si compliqué de détecter de l'ADN sur le corps de cet enfant, et y compris sur ses habits, puisqu'on sait que le pull a servi à l'étrangler?
Alors c'est compliqué parce que vous avez le regard de quelqu'un de 2023. Et il faut se replonger en 1996, où les techniques ADN, certes, sur les principes, ce sont quasiment les mêmes qu'actuellement. Mais pour qu'une trace, à l'époque, arrive à sortir, il fallait qu'il y ait des dépôts d'ADN très important et non pas seulement quelques cellules. Et nous sommes dans ce cas.
Et j'ai lu aussi que le corps avait séjourné dans l'eau et que peut-être à l'époque, on n'a pas les moyens pour détecter ce genre de problématique.
Il y a le corps ayant séjourné dans l'eau, il peut y avoir des destructions aussi en partie d'ADN qui sont dues au développement bactérien, voire des champignons. Et la recherche comme ça, à l'aveugle, sur certains éléments, ou même si on passe des écouvillons, ne recueille pas assez d'ADN à ce moment-là.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas d'empreinte, a priori, on ne trouve pas... vraiment rien qui puisse parler, ça veut dire que le meurtrier, il a pris des précautions, il avait peut-être des gants?
Alors, on peut toujours imaginer que le meurtrier avait des gants, ou il a la chance que justement une partie des éléments matériels eh bien, ne soit pas récupérable.
Serge Puyot, qui en quelques mots, hein, vraiment en quelques mots, parce qu'on va tourner autour de lui, évidemment, qui est Georges Pouille, 21 ans au moment des faits, il ne s'est jamais fait remarquer, d'après ce qu'on sait?
pas fait remarquer, mais effectivement, il a une enfance particulière. On va apprendre qu'il est né d'un viol. C'est ce que sa mère va révéler plus tard. Qu'elle a cherché à avorter et que finalement, ça n'a pas marché et que le petit Georges donc est arrivé. Il a une enfance difficile. Hein. Il était maltraité par sa mère, par le compagnon de cette dernière. Et puis, à 13 ans, il est tombé dans la drogue. Il a fumé du cannabis. Et il a avoué avoir touché aussi à la cocaïne. Un jour, il a même dit, lorsqu'il était petit, je suis le fils du diable, ce qui est quand même assez particulier.
Oui.
Et donc, voilà, il a une enfance très, très perturbée. C'est quelqu'un qui, effectivement, a beaucoup souffert dans son enfance et qui a aussi un léger retard mental.
Voilà, une enfance et une adolescence en zigzag, on va le dire comme ça. Bonjour, maître Denis Dreyfus.
Bonjour, monsieur Richard.
Merci beaucoup, vous aussi, d'être au téléphone aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes l'un des avocats de Georges Pouille, et c'est vous qui l'avez assisté beaucoup pendant toute cette affaire. Alors là, Georges Pouille, évidemment, il n'est pas suspect. On le laisse repartir après cette première audition. Pourquoi est-ce qu'on le laisse repartir? Parce qu'il n'y a pas d'éléments contre lui, c'est ça?
Alors, très curieusement, parce que quand j'ai été saisi de sa défense et qu'on a repris le dossier, on s'est aperçu qu'il avait un alibi. Qu'il était allé en fin d'après-midi, en fait après le meurtre de Saïda Berche, chez sa grand-mère. Et quand on relisait le dossier, on pouvait s'apercevoir aisément qu'on n'avait pas été très très perspicace sur la vérification de cet alibi et qu'on aurait sans doute pu gagner du temps, et notamment pour la manifestation de la vérité pour cette famille. Puisque il avait été vu à vélo et que on n'était pas allé l'interroger de manière très très précise, me semble-t-il.
2008, la création de la cellule mineur 38, et évidemment l'ADN va pointer un seul suspect possible. L'affaire Georges Pouille, Sarah et Saïda, le tueur sans visage de Vorep. La deuxième, c'est un accident. La première, j'étais habité par le diable. L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, je vous retrouve dans un instant sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Love.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur la trajectoire d'un meurtrier d'enfants, Georges Pouille. Comme des centaines d'autres hommes de Voreppe dans l'Isère, il a été entendu après la mort de Saïda, 10 ans en 1996. Dossier clos, rouvert une dizaine d'années plus tard. 21 avril 2006, le procureur de Grenoble décide de relancer l'enquête sur le meurtre de la petite Saïda Berche. Depuis 8 ans, les gendarmes de la section de recherche de Grenoble ainsi que leurs collègues du département analyse criminelle à Rosny-sous-Bois travaillent sur le rapprochement de divers dossiers non résolus concernant des mineurs, dont 9 sont concentrés dans la région de l'Isère. Les enquêteurs ont fini par rapprocher le meurtre de Saïda de celui de la petite Sarah Siad, 6 ans, perpétré 5 ans plus tôt dans la même localité de Voreppe. Le mode opératoire, un enlèvement, une victime étranglée à Paris, quasi identique. Le mardi 16 avril 1991, Sarah disparaît de l'aire de jeu de Bourvieux, où elle vit. Elle est retrouvée le lendemain dans un bois, à 300 mètres de son domicile. La fillette n'a pas été violée, mais il y a bien eu agression sexuelle. Des traces de sperme sont retrouvées sur le chemisier. À l'époque, les expertises ADN, encore trop peu précises, ne donnent rien. De nouveaux laboratoires sont sollicités pour reprendre les analyses dans les dossiers Sarah Siad et Saïda Berche. Dans ce dernier dossier, dans lequel aucun ADN n'avait été détecté, une trace génétique partielle finit par apparaître sur une manche du sweatshirt qui a servi à étrangler la victime. Mars 2013, la juge de Grenoble, Catherine Léger, en charge des dossiers SIAD et Berche, ordonne de travailler sur d'éventuelles correspondances sur ces traces ADN. Les recherches sont longues, minutieuses, mais le fichier des empreintes génétiques, le FNAEG, livre un nom, celui d'un habitant de Voreppe, Georges Pouille, né le 16 mai 75 à La Tronche, autre localité de l'Isère. Son ADN est inscrit au FNAEG à la suite d'une infraction routière commise en 2005, quelques années après les meurtres. Il avait été arrêté pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et défaut d'assurance. Mardi 23 juillet 2013, Georges Pouille, 37 ans, vivant en couple, père d'un enfant de 3 ans et demi, est interpellé à Voreppe. Il est placé en garde à vue. Interrogé sur le deuxième meurtre, celui de Saïda, il reconnaît les faits. Il indique avoir croisé la fillette à vélo. Il lui a prêté son VTT. Puis la fillette, dit-il, l'a suivie. Elle a insisté pour remonter sur le VTT. Il en a eu marre. Il l'a frappée à la nuque. Un coup de poing. Elle est tombée. Elle respirait toujours. Il l'a étouffée avec le sweatshirt. Il l'a laissée dans un fossé. Il ne comprend pas pourquoi on l'a retrouvée dans le canal. Il parle d'un accident. Il va changer plusieurs fois de version jusqu'à dire que Saïda était vivante et debout lorsqu'il l'a laissée sur le bord de la route. Georges Pouille est également placé en garde à vue pour le meurtre en 91 de Sarah Siad, 6 ans. Il n'avait alors que 15 ans, il était mineur. Il ne se souvient plus très bien de ce qui s'est passé, il ne reconnaît pas l'agression sexuelle, maintient qu'il ne s'agissait pas d'un crime. Là encore, c'était un accident. Devant le juge, il va même expliquer qu'il était habité par le diable, il ne savait pas ce qu'il faisait. Monsieur Pouille ne reconnaît pas les infractions telles qu'elles sont qualifiées, indique au journal Le Monde son avocat de l'époque, maître Emmanuel de Combard, lequel ajoute que les expertises psychiatriques de son client vont être fondamentales. Et on va voir bien sûr dans la suite de l'heure du crime ce que vont donner ces expertises autour de cet homme qui est parvenu à ne pas être soupçonné depuis de très nombreuses années avant que le travail de rapprochement des enquêteurs, mais aussi les expertises ADN, finissent par le confondre. Général François Daoust, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, ancien patron de l'IRCGN, directeur de la CY Forensic School à Cergy Paris Université et du Centre de Recherche de la Gendarmerie. Si je cite tous ces titres, c'est parce que vous êtes évidemment un expert en matière criminelle. Le déclic dans cette affaire Georges Pouille, c'est lorsqu'on rapproche les affaires.
Oui. La création de cette cellule, qui a été d'ailleurs, il faut le reconnaître, sous l'impulsion d'une des sœurs des petites victimes que vous avez citées dans cette région, qui va conduire la gendarmerie à, au niveau national et avec la section recherche de Grenoble, à créer la cellule mineur 38. Et regardez, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cellule? On essaye de voir comment on peut rapprocher les affaires. Et le premier rapprochement que l'on fait, c'est le modus operandi.
Ouais, c'est ça.
Et là, il y a deux affaires qui sortent.
Même si dans une affaire, il y a une connotation sexuelle, il ne faut pas le nier, évidemment, elle existe. Dans l'autre, pas du tout.
Alors, il y a une connotation sexuelle dans la première et qui ne ressort pas dans la seconde. Mais, comme vous l'avez dit, ce sont des traces de sperme et ce n'est pas un viol.
Oui, c'est ça.
Il est peut-être que dans la seconde affaire, les traces de sperme, eh bien, où elles ont été protégées, ou elles ont disparu. Oui. Toujours est-il que la façon dont a été tuée la victime et le scénario qui procède à son enlèvement et à ce drame est similaire.
Est identique. J'ai envie de vous dire, Général Daoust, pourquoi on n'a pas rapproché plus tôt les affaires? Parce que c'est deux crimes qui se passent à Voreppe. On a l'impression que c'est évident. On va dire, bah tiens, on va regarder l'un et puis l'autre.
Au même titre que pendant plus de presque 20 ans, on n'a pas fait de travail de fond, un rapprochement d'affaires sur ceux qui pouvaient être sériels, c'est-à-dire des crimes en série sur l'ensemble des 11 enfants disparus dans l'Isère. C'était pas dans la culture française.
C'est l'évolution de la méthodologie finalement, qui change et qui porte ses fruits. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on rapproche maintenant systématiquement les affaires. Serge Peillot, correspondant RTL à Grenoble, et vous connaissez parfaitement cette affaire. Lorsqu'il est interpellé, Georges Pouille, ses proches, ils tombent des nues parce que effectivement, cet homme, on dit, il est inoffensif. En plus, il est malade.
C'est ça, exactement, et notamment sa compagne du moment, avec qui il a eu un enfant, que j'ai rencontré d'ailleurs très rapidement après son arrestation. Eh bien, elle tombe des nues, comme vous dites. Elle ne comprend pas pourquoi et comment cet homme avec qui elle a pu vivre, elle a pu avoir un enfant, eh bien, est aujourd'hui accusé de deux meurtres de petites filles. Elle est complètement abattu, complètement terrorisée de savoir qu'elle a partagé la vie de cet homme. Mais en tout cas, à aucun moment, elle ne s'est doutée du passé de son compagnon.
Oui, donc effectivement, c'est la surprise, parce que cet homme, encore une fois, il est handicapé, il souffre d'une maladie qui le gêne pour marcher, notamment pour progresser. Maître Denis Dreyfus, vous êtes également l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, vous êtes l'un des avocats de Georges Pouille. Quelle attitude Georges Pouille a-t-il en garde à vue? On a l'impression qu'il va beaucoup changer de version.
Alors c'est un garçon qui avec le temps a évolué avec des difficultés de santé puisqu'il est atteint d'une maladie dégénérative, donc ça n'a pas facilité les choses dans son expression au stade de la garde à vue. Il conteste dans un premier temps et puis il reconnaît, il passera aux aveux sur les deux affaires criminelles qui lui sont reprochées. Et puis petit à petit il va essayer de se rétracter ou de donner des explications qui apparaissent relativement peu crédibles, et notamment concernant Saïda Berche, il va contester ensuite ce qui a été établi par l'autopsie, avoir étranglé cette jeune gamine au pied d'un canal situé à deux pas d'un lieu de passage assez important.
Alors ça c'est pour Saïda Berche, il est très peu bavard, même j'ai l'impression, sur le premier meurtre, celui de Sarah, ça c'était en 1991. Qu'est-ce qu'il dit sur le meurtre de Sarah?
Alors, il le conteste. En tout état de cause, il explique qu'il a vu l'enfant, qu'il n'a pas participé à son meurtre. Et pour expliquer le fait que l'on retrouve du sperme sur les vêtements de l'enfant, il explique qu'il a vu l'enfant et qu'il se serait masturbé, ce qui, bien entendu, n'apparaît pas crédible aux yeux des enquêteurs et d'autant moins crédible avec l'autre meurtre pour lequel il est aussi mis en cause.
Serge Peillot, encore un mot. Sarah, c'est en 1991. La deuxième victime, c'est 5 ans plus tard. Il a repris le cours normal de sa vie avec ses meurtres. Il ne s'est jamais fait remarquer entre-temps et on a l'impression qu'il est resté là, tranquillement, à Vorep.
Exactement, il est resté à Vorep, il a d'ailleurs côtoyé les familles de ces deux petites victimes, il a continué à vivre comme si de rien n'était, et un détail assez glaçant, lorsqu'il a eu un enfant donc avec sa compagne, eh bien il a fait garder cet enfant par la maman de la petite Sarah Siad. Voilà, il a confié son enfant à la garde d'une maman d'une de ses petites victimes, ce qui est quand même assez particulier.
Bah, c'est glaçant et effrayant ce que vous nous racontez, évidemment, Serge Peillot. On mesure là un peu mieux l'épaisseur du personnage. Un suspect numéro 1 qui dit ne pas avoir tué volontairement, il ne va pas échapper à 2 procès d'assises. L'affaire Georges Pouille, Sarah et Saïda, le tueur sans visage de Vorep. Vous souhaitez dire un mot à votre mère? Non, j'ai rien à dire et je m'en fous. L'enquête, aujourd'hui, de l'heure du crime. Que cache cet accusé sans mémoire et sans remords? La suite, dans un court instant sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Ooh. Please don't.
I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
J'ai pensé à la famille et à la pauvre petite. Parce que franchement, pour faire ça à une gosse, pauvre petite, ah non, c'est vraiment effroyable. De demander de vivre, quoi, comme tous les enfants. On peut pas faire ça à des enfants, c'est pas moi. Je vous dis, j'arrive pas à y croire.
Dans l'heure du crime, nous revenons aujourd'hui sur la trajectoire de Georges Pouille, arrêté en 2013 pour les meurtres de deux petites filles, Sarah et Saïda, commis plusieurs années auparavant. L'homme n'a pas fait beaucoup de confidences. Son premier procès s'ouvre à la fin de l'hiver 2016. Mercredi 9 mars 2016, Georges Pouille, 40 ans, pénètre dans la salle des assises de l'Isère à Grenoble. Il claudique, séquelle de la maladie dégénérative, la maladie de Steiner qui affecte ses muscles. Il est lourdement handicapé, il se déplace très peu, il a tué des enfants qui lui étaient proches et dont il connaissait la famille, avait indiqué lors de l'enquête le procureur de Grenoble Jean-Yves Coquilla. Pouille est jugé pour le meurtre en 1996 de la petite Saïda Birch. Face à la cour, il se mure dans le silence. « Je n'ai rien à dire », répond-il. Maria, la mère de l'accusé, vient témoigner. Elle dit vouloir révéler à son fils un secret. Elle lui raconte qu'il est né d'un viol et que Pouille n'est pas son vrai nom. « Je lui ai mené une sale vie. Je ne voulais pas de lui. Je lui ai fait payer les pots cassés », raconte la mère. L'accusé a connu une scolarité désastreuse, vécu de petits boulots, de plus en plus handicapé par sa maladie. Il a rencontré Christelle, ils ont eu un fils. Il lui arrivait d'être violent avec sa compagne. Le président demande à Georges Pouille s'il veut dire un mot à sa mère. Rien à dire, je m'en fous, répond-il. Georges Pouille finit toutefois par raconter sa rencontre fatale avec la petite Saïda. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai mis un coup sur la tête, un petit coup. Je lui ai remis son pull autour du cou. J'ai fait un nœud avec les manches. Elle était consciente. Je suis reparti. L'avocate générale réclame 30 ans de réclusion. Vous pouvez considérer que c'est une peine à perpétuité vu l'état de santé de l'accusé. Mais la liberté, cet homme en a joui indûment, injustement pendant 17 ans, dit la magistrate. 11 mars. Georges Pouille est condamné à 30 ans de prison. Et à l'énoncé du verdict, la famille de la petite Saïda va applaudir Serge Pueyo. C'est un procès qui est court dans le temps. Il n'y a pas beaucoup de suspense sur le fait que Georges Pouille soit coupable. Procès court, mais vraiment chargé d'émotions.
Oui, il y a eu beaucoup d'émotions, effectivement. La famille attendait des explications et Georges Pouille en a donné très très peu. Et il s'est réfugié souvent dans le silence. Lorsque, effectivement, on lui a dit qu'il avait avoué quand même lors de sa garde à vue, il a dit que non, c'était les gendarmes qui lui avaient mis la pression. Le gendarme, le directeur d'enquête qui est à la barre, il le traite, je cite, de connard. Il dit qu'il s'en bat les couilles. Donc, vous voyez, il a des mots assez forts et assez vert, si je puis dire, pour les enquêteurs. Je me rappelle que le président avait suspendu l'audience. Georges Pouille est revenu et a pris la parole. Il a dit « Je veux revoir mon fils, je ne l'ai pas vu depuis 3 ans ». Et à ce moment-là, le président lui demande « Mais que pensez-vous de celui qui s'en est pris à Saïda, la petite Saïda ?» Et là, il a répondu, Georges Pouille, je cite ses mots, il ne mérite pas de vivre. Si on avait fait ça à mon gamin, je l'aurais tué. Ah, alors oui, qu'il parle de lui-même.
Oui, non, mais bien sûr, mais ça, c'est, on entend ça parfois dans les cours d'assises avec des criminels de haut vol, effectivement, qui demandent la peine de mort. Il y a des gens qui demandent la peine de mort pour les criminels, alors qu'ils ont fait, ils ont commis cet acte. C'est absolument hallucinant. Maître Denis Dreyfus, vous êtes à ce moment-là l'avocat de Georges Pouille à ce procès. Il est resté sur ses positions, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, il va rester sur ses positions, il va même être en retrait par rapport aux aveux qu'il a pu passer en garde à vue. Et il va quasiment, ce qui est insupportable pour les familles, et on essaye de le tirer pourtant dans un sens positif vers la manifestation de la vérité, vers la reconnaissance d'humanité, et il va presque dire que finalement il l'a frappé par accident. Moi j'ai personnellement insisté sur la complexité de l'être que nous défendions, et la cour d'assises en première instance en a tiré une certaine conséquence, puisque il y avait eu cette reconnaissance de l'altération du discernement. Il encourait la réclusion criminelle à perpétuité, il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle en première instance par la cour d'assises.
En première instance, parce qu'il a fait appel de cette décision, Maître Dreyfus.
Personnellement, je n'ai pas suivi cette procédure en appel parce que je considérais que la décision qui avait été rendue était extrêmement raisonnable. Et d'ailleurs, la cour d'assises en appel l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, écartant les conclusions de l'expertise psychiatrique sur l'altération du discernement et considérant donc qu'il était pleinement responsable et qu'il devait encourir être condamné à la peine la plus importante.
Oui, c'est-à-dire la perpétuité. Général Daoust, on vous retrouve dans cette heure du crime. On entend ce que disent Serge Pueyo et Maître Denis Dreyfus. On a l'impression que cet homme, et c'était le cas en garde à vue d'ailleurs face à vos collègues gendarmes, c'est une forteresse un petit peu bloquée alors, ce Georges Pouille.
En garde à vue, on a plusieurs types de personnes qui réagissent différemment. Et on a pu remarquer, alors ça c'est une constante, hein, et là-dessus il y a même des études universitaires, que plus on était intelligent, plus on arrive à parler facilement, parce qu'on sait quand est-ce qu'on est coincé, et qu'on ne peut pas, d'une pirouette, négliger tous les éléments matériels ou autres. Et moins on est intelligent, ou on a des difficultés d'expression, plus on se referme, et on nie l'ensemble, et on le rejette.
Et effectivement, c'est le cas de Georges Pouille, pendant la garde à vue, et ensuite, lors de ce premier procès. Parce que le condamné n'a pas fini avec la justice, un deuxième procès l'attend. L'affaire Georges Pouille, Sarah et Saïda, le tueur sans visage de Vorep. Un psychopathe prêt à passer à l'acte dès qu'il est confronté à une difficulté. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Standing here, arms outstretched into the sky, tears drying on their face. He has been here. Brothers lie in shallow graves, fathers lost without a trace, a nation blind to their disgrace since he's been here. And I see no bravery, no bravery. Sadness, and I see no bravery, no bravery in your eyes anymore. This sadness, only sadness. Houses burnt beyond repair, the smell of death is in the air. A woman weeping in despair says he has been here. Trace the lighting up the sky, it's another family's turn to die. A child afraid to even cry out says he has been here. And I see no bravery, no bravery in your eyes anymore, only sadness. And I see no bravery. Sadness.
présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Georges Pouille, deux petites filles étranglées à Voreppe dans l'Isère, condamnées en mars 2016 à 30 ans de prison pour le meurtre de Saïda, 10 ans. Il comparaît deux mois plus tard pour celui de Sarah, 6 ans. Procès à huis clos. Jeudi 12 mai 2016, le tribunal pour enfants de Grenoble reste fermé au public. C'est à l'abri des regards, hormis ceux des avocats, des témoins et des experts, que Georges Pouille est jugé pour le meurtre le 6 avril 1991 de la petite Sarah Siad. Pouille avait 15 ans à l'époque, il était mineur, ce qui explique cette comparution à huis clos. Lors de l'enquête de personnalité, l'accusé avait été examiné par une neurologue et deux psychiatres. Les médecins ont décrit un homme souffrant d'un handicap mental léger. Un psychiatre certifie que Georges Pouille est un psychopathe prêt à passer à l'acte dès qu'il se trouve confronté à une difficulté. Selon cet expert, l'accusé présente une personnalité immature, instable, impulsible, sensible aux frustrations. Georges Pouille, est-il indiqué, présente un trouble grave de la personnalité, une psychose. L'avocat de l'accusé, Emmanuel de Combard, a demandé dès le premier jour la clémence du tribunal. Il met en avant le parcours chaotique de son client, né d'un viol, enfant battu, souffrant d'une maladie neurologique incurable. Un homme qui dit avoir été habité par le diable quand sa route a croisé celle de Sarah. Vendredi 13 mai, le procès est suspendu en raison du malaise d'un avocat. Les audiences reprennent un mois, au mois de juillet. Pouille est alors condamné à 13 ans de prison. Et voilà donc pour ce procès à huis clos avec cette condamnation. Serge Pueyot, évidemment, vous n'étiez pas dans la salle d'audience de ce tribunal de Grenoble parce qu'elle était fermée au public et aux journalistes. Mais on n'a rien appris sur le personnage. Il est resté fidèle à lui-même, c'est-à-dire c'est un accident, c'est un accident.
Exactement, muré dans ses certitudes ou ses pseudo-certitudes, il n'a pas voulu s'expliquer, il est resté sur ses positions, effectivement parlant d'un accident, et donc il n'a pas évolué par rapport au procès précédent, il est resté lui-même, et malheureusement eh bien les familles, la famille de la petite Sarah n'a pas eu les réponses qu'elle attendait sur les circonstances de la mort de la petite fille.
Oui, ça c'est sans doute le plus dramatique, effectivement les familles sont toujours là pour avoir des réponses, mais hélas, il est resté sur ses positions et n'a pas dit ce qu'on pouvait attendre de lui. Général François Daoust, ancien patron de l'IRCGN, j'ai cité les experts, le rapport d'expertise est assez long sur Georges Pouille, qui disent qu'il sans doute il pouvait récidiver. La maladie, on a l'impression, l'a bloqué quelque part, c'est ça ?
C'est ce qui donne cette impression, c'est qu'on a quelqu'un qui a deux fois, à 5 ans d'intervalle, qui a agi sur une impulsion, on sait qu'il a une psychopathie, donc une altération de tout sentiment qu'il peut y avoir vis-à-vis de qui que ce soit, et on se dit, mais pourquoi il ne peut pas passer à l'acte ? Et quand on le voit, la dégénérescence de sa maladie semble être un des facteurs qui a limité la possibilité de récidiver.
Il ne pouvait plus aller très loin, c'est ça ?
C'est ça. Difficulté à marcher, le vélo, c'était plus ce qu'il pouvait faire. Donc, entraîner quelqu'un et exercer une violence physique jusqu'à tuer, même si c'est un enfant, ça pouvait être très compliqué.
Encore un petit mot quand même, il y a cette histoire d'ADN avec le FNAEG, le fameux fichier des empreintes génétiques. Sans ce fichier qui a été créé tardivement, on va dire comme ça, on ne l'aurait pas retrouvé.
Alors, ça a été justement ce qui a manqué au début. On a une trace, mais difficile. Elle a mis du temps à être sortie et comprise et pouvoir être interprétée. Et derrière, on n'a rien pour l'adosser. Mais fichier est créé en 2003. Et je rappellerai que c'est parce qu'il avait fait une infraction routière conduite sous l'emprise de stupéfiants qu'il a été mis dans le fichier. Et c'est à ce moment-là qu'en reprenant les analyses, on peut le confondre.
Maître Denis Dreyfus, alors vous n'étiez pas l'avocat de Georges Pouille à ce deuxième procès, mais vous l'avez suivi évidemment, vous connaissez ce qui a été dit et ce qui s'est passé. On peut dire que votre client, il est resté, ce que disait Serge Pueyot, il est resté enfermé dans son silence avec cette maladie qui le ronge.
Absolument. Il a vécu dans son village, et vous imaginez tout de même la force de caractère qui a dû être la sienne, pour croiser les familles des victimes pendant plus d'une décennie sans rien laisser transparaître, ouais, c'est plus en faisant garder son propre enfant par la famille d'une de ses victimes. Effectivement, une sorte de dédoublement de personnalité où il apparaissait dans le village comme quelqu'un sans doute d'un peu fragile, d'un peu déboussolé, d'un peu marginal. Lorsque l'ADN a parlé et que la vérité est sortie, c'est effectivement le ciel qui est tombé sur la tête des habitants de Voreppe et de l'agglomération grenobloise.
Maître Dreyfus, est-ce qu'il vous a expliqué un jour pourquoi il est passé à l'acte? Est-ce qu'il vous l'a dit?
Non, et c'est un de mes souvenirs professionnels les plus difficiles, dans le sens où l'avocat, il essaye de cheminer avec son client sur la vérité à partir du moment où les faits étaient avérés par les éléments scientifiques et par l'ADN, et que l'on voulait essayer de comprendre le pourquoi de son passage à l'acte. Et j'avoue que je suis resté sur ma faim tout au cours de l'information judiciaire et puis de l'audience. Et je pense que Georges Pouille est parti avec les condamnations qui ont été prononcées avec sa part de mystère.
L'homme prend le chemin de la prison après avoir indiqué qu'on se trompait sur son compte. L'affaire Georges Pouille, Sarah et Saïda, le tueur sans visage de Voreppe. Un jour peut-être, il aura un accident cardiaque, on n'entendra plus jamais parler de lui. L'enquête, aujourd'hui, de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
I've been dreaming, friendly faces, I've got so much time to kill. Just imagine people laughing, I know someday we will.
La trajectoire de Georges Pouille, condamné pour avoir tué à 5 ans d'intervalle deux petites filles, Sarah, 6 ans en 1991, Saïda, 10 ans en 1996. Confondu 22 ans après son premier meurtre, il a toujours répété sans convaincre qu'il avait tué par accident. Lors de l'arrestation de Georges Pouille, sa compagne Christelle avait dit aux gendarmes qu'elle tombait des nues. Elle décrivait alors un homme qui était gentil et avait le cœur sur la main. Il m'a juste dit un jour que s'il lui arrivait quelque chose, il faudrait que je prenne soin de notre fils. Christelle a par la suite coupé les ponts avec son compagnon dont l'état de santé n'aura cessé de se dégrader. Mon client est déjà condamné sur le plan médical. La dégénérescence s'accélère. Peut-être qu'un jour, il fera un arrêt cardiaque et on n'entendra plus jamais parler de lui. Indiqué à l'issue du deuxième procès, son avocat, Maître de Combard. Les victimes de l'affaire ne sont pourtant pas Georges Pouille, mais bel et bien Sarah Siad et Saïda Bersh. L'avocat de la famille de Sarah, Maître Léon Lef Forster, indique « Aucune peine ne peut ramener la victime. C'est un chapitre de 25 ans de souffrance qui se tourne. » Et effectivement, les petites Sarah et Saïda, on y pense dans cette heure du crime, car il faut bien le répéter, ce sont elles les victimes. Il n'y a pas d'autres victimes dans cette affaire que ces deux petites filles qui ont été martyrisées par Georges Pouille. Serge Pouillot, vous êtes notre correspondant à RTL à Grenoble, vous avez suivi toute cette affaire. C'est une affaire qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit dans l'Isère, dans cette région de Vorep. Les familles, elles n'ont jamais finalement eu la vérité, elles attendaient qu'on leur explique ce qui s'était passé, mais elles n'ont pas eu un mot de compassion de la part de Georges Pouille.
Aucun mot de compassion, il est resté effectivement très froid face à ces familles de victimes, à ces familles qui ont souffert, hein. Je me souviens du frère de Saïda Bersh, qui est venu à la barre expliquer que toute la famille avait été soupçonnée à un moment par les enquêteurs, les trois frères avaient été soupçonnés. Il a semé le chaos au sein de notre famille, a martelé à la barre ce frère, et puis l'avocate de la mère de Saïda, je me souviens, a expliqué que cette maman n'avait plus de vie, qu'elle attendait encore le retour de sa fille alors qu'elle était morte, effectivement, et qu'elle pleurait en silence encore bien après la mort et de sa fille et l'arrestation de Georges Pouille. Donc, véritablement, deux familles détruites qui n'ont eu aucune réponse à leurs questions.
Mais c'est terrifiant ce que vous racontez, Serge Pueyo. Maître Denis Dreyfus, vous avez été l'un des avocats de Georges Pouille. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui ?
Alors, à l'heure actuelle, il est toujours, bien sûr, détenu. Il le sera longtemps. Je pense que, compte tenu de son état de santé, il risque de terminer ses jours en détention. Mmh. Il est assez recroquevillé sur lui-même et mutique. Pour autant, il a accepté sa détention. Je pense qu'il purge sa peine et que finalement, la justice l'a rattrapé, puisqu'il a vécu avec ses crimes de nombreuses années en liberté et qu'il était bien légitime que la justice le prive avec du retard, mais de sa propre liberté.
Oui, effectivement, c'est ce que vous dites est très juste, Maître Dreyfus, le priver de sa liberté, et c'est le cas aujourd'hui. Général François Daoust, ancien patron de l'IRCGN, et puis vous êtes aujourd'hui le patron du centre de recherche de la gendarmerie. Juste un petit mot sur le profil de cet homme. C'est compliqué, j'allais dire, entre guillemets, ses clients à interroger et presque à faire avouer, parce que finalement, il n'a rien dit au final.
Oui, c'est très compliqué, et c'est en ce sens que la gendarmerie a créé, il y a quelques années en arrière déjà, un département des sciences du comportement.
Oui.
Justement pour aider les enquêteurs à pouvoir interroger des personnes qui sont plutôt, comme le disait l'avocat, avec un certain mutisme, qui s'enferment dans une tour d'ivoire, et il faut arriver à tirer ce fil pour que, ils arrivent à donner au moins leur vérité, pas toujours celle que l'on attend, mais...
Et on est mieux formé à ça, c'est ce que vous nous dites, François Daoust. On a beaucoup progressé.
Oui.
Effectivement, la criminologie et la criminalistique a fait des progrès hallucinants ces dernières années. Maître Denis Dreyfus, je vais terminer cette émission avec vous. Je rappelle que vous avez été l'avocat de Georges Pouille. Le mécanisme Pouille dont on vient de parler, est-ce que finalement on a réussi à le décrypter ? Est-ce qu'on sait ce que pense cet homme, comment il fonctionne, ou bien ça reste un mystère ?
On peut dire qu'il partira avec son mystère. Fort heureusement, l'ADN a parlé et a permis de faire en sorte qu'il y ait un nom et un visage pour les victimes face à ce qu'elles ont subi. Mais ce nom et ce visage de Georges Pouille demeure un mystère. Et pour moi qui l'ai assisté, je ne vous cache pas que c'est un énorme point d'interrogation et une vraie frustration, parce que au-delà de l'horreur des crimes, ce que l'on souhaite découvrir